Nous lisons dans Jean au chapitre 9. Alors, ce dont nous allons parler concerne le passé et parfois l'enfance, mais pas que ça. Et ça nous parle des maladies de l'âme. Et ces maladies ont été contractées dans notre passé, souvent dans l'enfance, et que nous soyons attentifs. L'argument du passé pour ne pas changer dans l'avenir n'est pas quelque chose de valable quand on pense au prix que Jésus-Christ a payé pour notre changement. Il est écrit dans Jean chapitre 9, « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Voilà. Si cet aveugle s'était dit, « Mais comment il peut m'envoyer au réservoir de Siloé, sachant que je ne vois pas ?» Il n'allait jamais se déplacer. Certainement, il a fait des efforts. Il a dû être aidé. Mais il a fait un effort. Il s'est dit, même aveugle, je peux y aller parce que je veux du changement. Souvent, on utilise le passé comme argument pour ne pas bouger et ne pas changer. Cet aveugle nous montre que son passé ne l'a pas freiné. Quoiqu'aveugle, il s'est dit, il y a une opportunité que j'ai à saisir pour changer, c'est celle que Jésus-Christ me donne. Et aujourd'hui, le Seigneur te donne une opportunité pour changer, pour passer d'une étape à l'autre. Et la prédication nous concerne tous. Ça ne concerne pas certains, plus que d'autres, mais nous tous. Parce qu'il est écrit dans 3 Jean au chapitre 2, 3 Jean plutôt verset 2, 3 Jean 2, « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de notre âme, de ton âme. » 3 Jean 2, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé quand prospère l'état de ton âme. Voilà le souhait. C'est que Dieu veut qu'on prospère à tous égards. Mais les maladies de l'âme, vous savez, il s'est dit qu'on prospère l'état de ton âme. Donc, c'est-à-dire que notre prospérité générale dépend de la prospérité de l'âme. Lorsque l'âme prospère, le reste va aller aussi. Et les maladies de l'âme sont un frein pour la prospérité générale. Les maladies de l'âme vont bloquer même la foi. Les maladies de l'âme vont créer des problèmes qui vont nous empêcher de construire avec Dieu d'une manière solide et produire du fruit. On va tourner en rond lorsque on ne laisse pas Dieu nous soigner des maladies de l'âme. Et dans le psaume 103, c'est dit, « Mon âme bénit le Seigneur, c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Il y a les maladies de l'âme, il y a les maladies physiques, mais il y a aussi les maladies de l'âme. Et elles ont toutes la même conséquence, c'est qu'elles détruisent la vie. Elles détruisent la vie. Parfois, on va voir quelqu'un tourner en rond, quelqu'un se suicider parce que il n'a pas laissé Dieu guérir ses maladies de l'âme. Enfin, on va voir quelqu'un avoir du mal à gérer son foyer, à gérer son appel. Dieu l'a appelé certainement. Là, son appel est visible, mais on ne comprend pas comment, alors que son appel est si visible, la personne n'entre pas pleinement d'une manière posée avec, pour produire du fruit, d'une manière sérieuse, d'une manière suivie. C'est dû au fait qu'il y a des maladies de l'âme qui empêchent que la personne travaille d'une manière confortable et aille loin. Même quand on est le meilleur joueur du monde, quel que soit dans quelque sport que ce soit, dès qu'on est malade, on ne peut pas nous faire jouer. Nous avons besoin d'être en forme pour construire, pour faire quelque chose. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur les maladies liées à l'orgueil. Il y a beaucoup de maladies de l'âme. Il y a la peur. Il y a des gens qui ont une sorte de peur anormale. Ce sont des maladies de l'âme, des inquiétudes anormales. Il y a le fait d'être jaloux. C'est des maladies de l'âme. Mais il y a des maladies qui sont liées à l'orgueil. Et nous allons essayer d'en citer quelques-unes, sachant que presque toutes les maladies, parce que le jour où on parlera des autres maladies, on verra qu'il y a un peu d'orgueil quand même toujours. Parce que le centre de tout ce qu'on va dire, c'est la chair. Vouloir s'affirmer par la chair produira forcément des maladies de l'âme ou les confortera. Donc quand on travaille dans la chair, parce que la chair et l'âme, c'est pareil presque. Donc quand on travaille dans la chair, on va laisser libre cours aux maladies de l'âme ou bien on va en attraper. Et pour échapper aux maladies de l'âme, il faut marcher selon l'esprit. C'est ce que notre frère Paul nous dit dans Galates 5, 16. Alors nous commençons par une première maladie qu'on peut retrouver même chez certains chrétiens. Il est dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc ça veut dire que même ceux qui sont sauvés par la foi en Jésus ont besoin de toujours connaître la vérité pour être libérés de certains fardeaux, de certains poids, de certains boulets qu'ils continuent à traîner et qui les empêchent de construire efficacement avec le Seigneur. On commence par la première maladie, donc on va insister sur les maladies liées à l'orgueil. Le narcissisme, c'est le fait de s'admirer soi-même. C'est le fait de se voir comme étant le meilleur, le plus beau, la plus belle, la plus intelligente. C'est-à-dire qu'on a une opinion de soi-même très élevée. C'est de l'admiration. Mais quelqu'un me dira, mais c'est comme l'orgueil. Mais oui, l'orgueil est la base de tout. Mais le narcissisme, c'est particulier. C'est quelqu'un qui s'estime beau, fort, donc il s'estime avoir toutes les bonnes qualités. Et c'est ça ce qui fait que dans sa tête, il n'a même pas le temps de réfléchir sur ses défauts. Parce que tout le monde a, par la chair, une dose d'orgueil. Mais ça ne nous empêche pas de nous repentir, ça ne nous empêche pas de voir nos défauts. Même si on peut manifester un certain orgueil, ça ne nous empêche pas de voir nos problèmes, nos défauts, ça ne nous empêche pas de voir nos incapacités, nos tares. Mais le narcisse, celui qui est dans le problème narcissique, ne voit pas. Donc lui, il est beau, il est fort. Je vais vous donner un petit exemple. Certaines personnes qui sont narcissiques, par exemple, ne pensent qu'elles ne sentent pas mauvais quand elles sont sales. Donc, vous allez dire, mais on ne comprend pas. La personne ne sait pas vue en sortant de chez elle. Mais non, la personne dans sa tête, elle est comme, c'est le plus beau, c'est le plus... Il n'y a pas de défaut. Donc, alors que on cherche à analyser, mais comment se fait-il que la personne ne s'est pas rendue compte? Il y a un problème, il y a un problème de narcissisme. C'est-à-dire que la personne s'admire elle-même. Et du moment qu'elle s'admire, elle ne pense même pas qu'elle puisse avoir un défaut. Donc pendant que ce que tout le monde voit est clair, lui, on a eu des cas comme ça, on a eu des amis comme ça, qui, bon, à un certain âge, nous on lui dit qu'il sent mauvais, il dit que non, moi je sens bon. Voilà. Donc on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il est devenu fou. Non, il n'est pas devenu fou. C'est une maladie de l'âme. C'est l'effet de se croire, c'est inconscient parfois. Et comme on a dit, la plupart de ces choses sont liées au passé. Vous savez que pour nos mamans, nous sommes les meilleurs. Tous les enfants, pour nos mamans, nous sommes les meilleurs. Et quelqu'un qui n'a pas très bien achevé son enfance garde toujours un fonctionnement lié à sa maman. Même 40 ans, 50 ans, il a toujours un fonctionnement lié à sa maman. Et il se trouve toujours comme sa maman le trouvait. Vous savez, devenir adulte, c'est quoi? C'est pouvoir vivre sans sa maman. C'est ça, devenir adulte. Il suffit de voir, regarder les documentaires animaliers. Vous allez vous rendre compte qu'un animal est adulte au moment où il peut vivre sans sa mère. C'est comme ça que ça se passe. Donc quelqu'un qui vit toujours sous le régime de sa mère, consciemment ou inconsciemment, n'a pas encore fini son enfance. Et souvent, les narcissiques n'ont pas fini leur enfance. Ils marchent toujours selon le régime de leur maman qui les trouvait toujours bien. Non. Même quand vous êtes brigand, votre mère va toujours vous aimer et vous trouver bien. Et elle ne va pas comprendre qu'on vous critique. Voilà. Ce n'est pas toutes les mères qui sont comme ça, mais en général, elles sont comme ça. Donc, elles trouvent leur enfant toujours bien. Voilà, c'est ça. Et certains enfants, à cause de ça, gardent une image... Deux, même adultes, une image infaillible. Or, nous ne sommes pas infaillibles. Vous savez, une mère est capable de mettre sa bouche dans le nez de son enfant pour nettoyer. Voilà à quel point une mère est attachée à son enfant. Voilà, elle peut faire ça. Et pour un tel enfant, son nez est propre puisque quelqu'un met sa bouche dedans. Ah, donc, et il risque de grandir comme ça. Vous voyez un homme qui a 45 ans, 50 ans, mais qui ne se rend pas compte qu'il est sale. Parce que son enfance n'est pas achevée. Il y a le narcissisme qui est toujours là. Il se considère comme beau, le plus fort, le plus intelligent. Voilà. Et ça peut gêner la croissance d'une telle personne. Parce que comment tu peux te repentir si tu ne vois pas tes défauts? Donc ta croissance spirituelle sera bloquée parce que tu te considères comme le plus fort, le plus beau, comme te voyait ta maman. Et parfois, il peut y avoir un environnement aussi qui nous a favorisés, où on était le premier de classe, tout le monde nous élevait, on était le plus fort dans un sport, voilà. Et on produit un certain narcissisme, c'est très, très dangereux. Donc, nous devons être, comment dire, vigilants là-dessus. Vous savez comment? Mais quelqu'un me dira, mais comment je vais le savoir alors? Mais quand tu te rends compte que beaucoup de personnes te reprochent quelque chose, que toi, tu ne vois pas, attention, peut-être il y a du narcissisme. Voilà. Donc, plusieurs personnes te l'ont dit, mais toi, à chaque fois, tu es l'innocent. Tu ne vois rien. Donc, dis-toi, qu'est-ce qui t'empêche de voir? Est-ce que ce n'est pas du narcissisme? Voilà. Tu t'es mis quelque part sur un piédestal. C'est pourquoi tu ne vois pas de défaut. Et souvent, bon, c'est toujours les autres qui nous comprennent mal. C'est ça le problème. Et pour les mamans, c'est toujours les autres qui en veulent à leurs enfants. C'est toujours comme ça. Et le narcissique va avoir à peu près ce comportement-là, de se dire que c'est les autres qui le voient mal. Lui, il est bien, il est correct, mais c'est les autres qui le voient mal. Donc, et ça, c'est beaucoup de gens, ça les amène à des graves erreurs. Donc, ce sera toujours la société qui a tort. À un certain moment, comme la société aussi ne cède pas non plus facilement, donc ça va faire que la personne en a marre de vivre avec les humains, va considérer que les humains sont dans l'erreur, donc il va faire des fuites, des déplacements, et puis finalement va se rendre compte que partout où il va, les humains sont toujours pareils, et parfois ça peut amener au suicide. Le narcissisme, c'est dangereux. Ça peut amener au suicide parce qu'on ne reconnaît pas ses torts, on ne voit en nous aucun défaut, c'est toujours les autres. Finalement, on va se dire, le monde ne veut pas de moi. Puisque le monde ne veut pas de moi, je m'ôte la vie. Et ça, ce n'est pas bon. C'est toujours la base de cela, c'est l'orgueil, et c'est très, très dangereux. Nous devons nous humilier et être attentifs au regard des autres. C'est très important. Être attentif au regard des autres. Il y a des gens parfois qui peuvent avoir une certaine masse, mais pour elles, elles sont longilignes. Voilà. Donc, n'ose pas leur dire que tu as grossi un peu, hein, parce que là, c'est grave. Elles se voient comme, je ne connais pas les gens du moment, bon, Miss France. Voilà. Et donc, c'est du narcissisme. Hein. Et quand tu vas dire, mais ton bras, ça dépasse un peu, aïe, aïe, aïe. Donc, c'est toi qui as mal vu. Une bonne règle, bien-aimée, c'est de suivre tout ce que dit la Bible. Considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. C'est ça la règle. Si on veut éviter le narcissisme, se mettre, comme le Seigneur a dit, à la dernière place. Voilà. Ça t'évitera le narcissisme. Quand on dit considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes, ça va nous conduire à prendre en considération les remarques des autres. Et certains même disent, mais tiens, mais moi, c'est Dieu qui m'a parlé. Oui, mais d'accord. Mais Dieu m'a demandé, m'a donné une prédication. Mais comment on ne me laisse pas prêcher? Mais si Dieu a voulu que tu prêches, il va convaincre les gens qui autorisent à prêcher. Donc le narcissique va dire non, c'est les gens qui autorisent à prêcher qui sont jaloux de moi, qui ne me voient pas. Au lieu de se dire, mais tiens, Dieu est tout puissant, s'il m'a donné la révélation de prêcher, de chanter, il doit me faire remarquer auprès des gens qui autorisent ça, il doit leur parler. Voilà. Normalement, c'est ça qu'il faut dire à Dieu. Mais Dieu, mais tu me demandes de faire ça, mais ce n'est pas moi le chef. Dis aux gens qui font ça, mais le narcissique va dire, mais non, moi, Dieu m'a parlé. C'est bon, c'est moi qui suis sur la bonne voie, mais c'est les gens qui décident qui sont sur la mauvaise voie. Et c'est comme ça, et c'est très, très dangereux. Soyons capables d'écouter les autres, d'entendre ce que les gens disent. Ça va nous éviter beaucoup, beaucoup de pièges. Il y a une autre maladie qu'on connaît, c'est le complexe de supériorité. Moi, j'appelle ça aussi le syndrome du centre du monde. Il y a des gens qui pensent que si eux, ils ne sont pas quelque part, ça ne va pas marcher. Donc, on a besoin d'eux. Ce n'est pas la même chose que le narcissisme. Le narcissisme, tu te concentres sur toi-même, tu es le plus beau, le plus fort, le plus propre, tu n'as pas de défaut. Mais le syndrome du centre du monde, c'est que il faut que moi, je sois là. On a besoin de moi, en quelque sorte. On a besoin de moi. Sans moi, le monde ne peut pas tourner. Et vous savez, la conséquence de ça, c'est que ce genre de personnes finissent par souhaiter que ça ne marche pas là où ils ne sont pas. Pour dire, vous voyez, hein, je ne suis pas là et ça ne marche pas. Il y a une mauvaise foi qui va naître, de mauvaises pensées, que là où ils ne sont pas là, dans l'activité où ils ne sont pas insérés, dans laquelle ils ne sont pas insérés, dans l'entreprise dans laquelle ils ne sont pas conviés, ils vont commencer à souhaiter presque inconsciemment que ça n'aille pas pour dire, mais tiens, ils ne m'ont pas intéressé, c'est pourquoi ça ne va pas. Et ce n'est pas bon, parce que Dieu veut qu'on ait des pensées de bienveillance, pas de souhaits de destruction. Parce que là, ça tire après un esprit de destruction. Donc là où on n'est pas, ça ne doit pas tourner. Vous savez, quand on s'approchait, quand on était à une année avant les élections en France, qui pouvait penser que François Hollande puisse être président? Dans notre esprit, c'était le dernier. Dans notre esprit, qu'est-ce qui pouvait passer? C'était que, mais si Hollande est président, tout va se casser. Mais aujourd'hui, la France existe toujours. Donc, on avait l'impression que, à part Strauss-Kahn ou Sarkozy, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Mais on a été confondus. C'est l'inattendu qui s'est produit. Mais c'est Hollande qui est président. Qui pouvait penser ça? Il y avait toutes sortes de critiques sur lui par rapport à son apparence physique, par rapport au fait qu'il est mou. On a tout dit. On ne pensait même pas qu'il puisse, déjà même être deuxième dans le Parti socialiste. Mais aujourd'hui, c'est lui le président. Est-ce que la France est morte? La France tourne. Donc, sans Dominique Strauss-Kahn, la France fonctionne. Sans Nicolas Sarkozy, la France fonctionne. Donc, le monde va continuer à exister même si toi, tu n'es pas là. Donc, certaines activités marcheront même si toi, tu n'es pas là. Donc, il ne faut pas se constituer en centre du monde. Syndrome du soleil. Donc, il faut que moi, je sois là parce que si je ne suis pas là, qui va briller? Qui va donner la vie? Non. Il y a d'autres humains. Le monde a existé sans toi. Le monde continuera sans toi aussi. Voilà. Nous avons notre part, mais nous ne sommes pas indispensables. Le monde a fonctionné sans nous autrefois. Il continuera à fonctionner sans nous. Telle activité a fonctionné sans nous autrefois, ça continuera à fonctionner sans nous. Ne nous prenons pas pour le centre du monde. L'apôtre nous dit dans Romains 12, « Soyons attirés par ce qui est humble. N'ayons pas une autre opinion de nous-mêmes. » Proverbe 3 nous dit aussi que nous ne devons pas nous considérer sages par rapport à nous-mêmes. Croire qu'on est le centre du monde, sans nous, rien n'allait plus se faire, rien ne peut se faire, c'est faux. Nous avons l'exemple dans la Bible de beaucoup de gens qui ont été remplacés par d'autres. Saül, il était le plus costaud des fils d'Israël. Mais on voit que David, dans sa petite taille, dans sa jeunesse, dans son inexpérience militaire, il est arrivé à faire de plus grands exploits que le plus grand militaire de son époque, qui était Saül. Donc, comme pour dire que Dieu est capable de susciter d'autres personnes, c'est vrai qu'on peut jouer un rôle important. On peut être quelqu'un équipé de beaucoup de choses qui sont utiles pour la société ou pour notre environnement ou bien pour une activité, mais on n'est pas indispensable. Donc, sans nous, les choses peuvent fonctionner. Donc, que ce ne soit pas un problème que nous ne soyons pas associés. Donc, nous devons considérer que le monde a tourné avant nous. Un jour, on n'avait pas existé. On n'a pas existé. On est venu à la vie un jour. Donc, avant nous, le monde fonctionnait. Donc, considérons les choses ainsi. Considérons surtout, nous, chrétiens, que Dieu est au contrôle de tout. C'est tout. Dieu est au contrôle. Donc, nous ne devons pas nous imaginer que sans nous, les choses ne vont pas aller. Non, on doit se dire, Dieu s'occupera. Vous savez, Paul, c'était un personnage très, très important. Jusqu'aujourd'hui, Paul est très important par ses écrits dans les églises. Paul est très, très important. Mais Paul, quand il s'en allait, il quittait l'église d'Éphèse dans Actes des Apôtres, chapitre 20, il a dit, je vous recommande au Saint-Esprit et à la parole de Dieu. Moi, je m'en vais, vous ne me verrez peut-être plus, mais je vous laisse sous le contrôle du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Il était conscient que le Saint-Esprit était au contrôle. Il fera le travail. Il dit, en mon absence, il y a des loups qui viendront pour diviser. Mais je vous demande de faire le bon travail. Il avait un souci. Vous savez, et Paul était conscient des dons qu'il avait. Hein. Dans un passage, il dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Mais après, il précise en disant, non pas moi, mais la grâce que Dieu a mise en moi. Mais il était conscient de son importance pour l'église de l'époque. Il était conscient de son importance. Mais il dit, bon, je ne suis qu'un homme. C'est Dieu qui est le centre du monde. Voilà. Ce n'est pas moi. Je m'en vais et je vous recommande à la parole de Dieu et à l'Esprit Saint. Ce n'est pas que, bien aimé, il n'y ait pas des gens très importants pour une organisation. Il y a des gens très importants pour une organisation qui peut faire même parfois 50% de l'activité. Que ce soit les gens qui regardent certains sports, vous allez voir, il y a certains joueurs qui font la différence. Donc, ils prennent 40% du travail de l'équipe. Mais il y en a eu avant eux et il y en aura après eux. On n'est pas indispensable. On n'est pas le centre du monde. On peut ne pas être quelque part et que les choses avancent. Donc, surtout nous, chrétiens, ayons l'humilité de dire « Je recommande toutes choses à Dieu, le Tout-Puissant, qui veille sur tout, qui connaît tout et qui peut gérer tout. » Imitons notre bien-aimé le centenier romain qui a dit à Jésus « Mais ce n'est pas la peine de venir jusqu'à chez moi. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Vous voyez, cet homme a diminué même la présence physique de Jésus. Il en a été jusque-là. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il dit, mais physiquement, je n'ai pas besoin de lui. Je sais qu'il peut dire une parole et les choses vont se faire. Il a été loin, cet homme, dans la confiance en Dieu. Il a dit, même si, en tant qu'humain physique, il n'est pas là, Jésus, son esprit, sa parole est puissante pour faire les choses. Donc, c'est pour nous montrer que l'homme physique n'est pas indispensable. Dieu peut faire les choses par son esprit et sa parole. Quand Jésus est né, les anges ont chanté. Hein. Les bergers étaient là, ils ont entendu, ils ont vu les anges leur parler. Dieu peut prêcher par les anges. Donc, l'homme physique n'a de rôle que ce que Dieu décide qu'il ait. Et comme Dieu est tout puissant, personne ne peut t'empêcher de jouer le rôle que Dieu a choisi pour toi. Donc, tu n'es pas le centre du monde. C'est Dieu qui est le centre du monde. Nous ne sommes pas le centre du monde, c'est Dieu. C'est très important d'éviter ce complexe de supériorité, croire qu'on a besoin de nous. On n'a pas besoin de nous, on a besoin de Dieu. Amen. Il y a le complexe d'infériorité aussi. Il y a des gens qui, à cause du complexe d'infériorité, ils ont l'impression qu'il leur manque quelque chose. Certainement, dans leur passé, on les a diminués. On les a rabaissés. Ou ils n'ont pas eu un diplôme, peut-être. On peut être dans une famille où tout le monde a eu le diplôme jusqu'à tel niveau, et pas nous. Et les parents, souvent, ils boudent quand c'est comme ça, mais tu ne vois pas les autres. Et ça nous a peut-être marqué. Et maintenant qu'on a une certaine capacité à faire des choses, puisqu'on n'a pas été guéri de ce complexe-là. C'est pourquoi on a commencé par le chant « Tu es ma gloire ». David dit « Oh Seigneur, tu es ma gloire ». Tant que quelqu'un n'a pas compris que c'est Jésus qui est notre gloire, il va vouloir agir par la chair pour faire du rattrapage. Mon passé n'a pas été ce qu'il fallait. Et on veut, puisque adulte, on peut faire des choses, parce qu'enfant, on ne pouvait pas toujours, on n'avait pas la liberté, on n'avait pas toujours les capacités, mais adulte, on peut faire des choses. Et on veut rattraper ce qui n'a pas marché autrefois, mais par la chair. Or, Jésus a déjà rattrapé tout à la croix. La Bible dit, du fumier, il relève l'indigent. Dieu nous a rattrapés à la croix. Mais il y en a qui ne sont pas contents de ça. Ils veulent se rattraper par la chair. Mon passé, on s'est moqué de moi, ou bien je manque quelque chose, ou bien je n'ai pas la taille qu'il faut, je n'ai pas la couleur qu'il faut. On cherche maintenant qu'on a les capacités de changer les choses à se rattraper. Or, en réalité, c'est un complexe d'infériorité. Et parfois, on va forcer les enfants à faire des choses pour qu'ils rattrapent ce que nous, on n'a pas fait. Bien-aimé, je suis d'accord sur le fait que notre passé parfois a été difficile et qu'on veut que nos enfants ne vivent pas la même chose et aillent le plus loin possible. C'est un très bon sentiment. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le problème vient quand ça devient presque du remplacement. On veut qu'ils nous... C'est une sorte de remplacement. C'est que moi, je n'ai pas fait... Moi, personnellement, on ne se dit pas, tiens, nous, on n'a pas eu telle opportunité. Maintenant, eux, ils en ont, qu'ils aillent plus loin que nous. Non. Là, on se dit... C'est comme si on se réalisait à travers l'enfant. Ça, ce n'est pas bon. Et on va commencer à forcer l'enfant parce qu'on veut se réaliser à travers lui. Ce n'est pas son bien qu'on veut. C'est se réaliser, rattraper notre passé par son succès à lui. Non. Là, c'est aussi une grave erreur qui montre qu'il y a un problème de complexe d'infériorité qui n'a pas été réglé. Un problème, on est en train de vouloir se rattraper. Par exemple, on se sent moins intellectuel que d'autres personnes, alors on va vouloir se rattraper par la tenue vestimentaire, par la beauté physique. Donc, on veut équilibrer. On sent que de tel côté, ça n'a pas marché. Et on veut équilibrer par un autre côté, parfois par la violence. Parce que par la parole, ça n'a pas marché, on n'a pas réussi à convaincre quelqu'un et on veut se rattraper par la violence. Et les gens, c'est un complexe d'infériorité qui fait qu'ils veulent exister, ils veulent produire quelque chose, mais parfois des bêtises. On a vu des gens qui ont voulu tuer un président pour se faire connaître. Donc, ils ont quelque chose, un rêve à rattraper. Et c'est un rattrapage charnel qui finit toujours mal. Donc, c'est un complexe d'infériorité que Jésus peut guérir. Parce que Jésus a fait de nous des rois et des reines, des princes et des princesses. Donc, quand on est en Jésus-Christ, on est fils de Dieu. Mais imaginez être fils de Dieu, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Quand on est fils de Dieu, on est respecté même quand on est crucifié. Jésus était crucifié, mais il a été respecté par le centenaire romain. Le centenaire romain était libre, en bonne santé. Jésus à la croix, mais le centenaire romain dit celui-ci était vraiment le fils de Dieu. Respecté alors que tu es crucifié. Respecté par le voleur à côté. Jésus nous a rattrapés, nous n'avons pas besoin de nous rattraper par nous-mêmes. Parce qu'on est déjà rattrapés. Pourquoi forcer, comme a dit un évangéliste, tu es dans la mer, mais tu cherches encore de l'eau pour ramer. Mais non, mais tu es déjà dans l'eau. Il disait ça pour parler aux chrétiens qui sont déjà en Christ, qui sont dans l'église, mais qui sont à la recherche des émotions, des sensations. Mais alors qu'ils sont déjà dans l'esprit, ils sont déjà en Christ, ils sont déjà dans la chose. Au lieu de laisser tout simplement la chose s'exprimer parce qu'on est déjà dedans, on est déjà rattrapé par le Seigneur. On n'a pas besoin de se rattraper par la beauté physique. Il y en a qui veulent se rattraper par la beauté physique, qui veulent se rattraper par l'apparence, par l'activisme. Ils veulent se rattraper. Non, Jésus déjà nous a rattrapés. Maintenant, tout ce qu'il nous demande d'exprimer, c'est que l'Esprit mettra dans notre cœur. Notre valeur ne vient pas de ce que nous faisons, mais de ce que nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Voilà. Ce n'est pas le faire qui va faire de toi quelqu'un d'exceptionnel, c'est ta foi en Dieu. Et maintenant, si tu as vraiment foi en Dieu, l'Esprit se servira de toi pour faire des exploits. Mais tu donneras gloire à Dieu, comme Paul a dit, ce n'est pas moi, même si il a dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Il a dit, ce n'est pas moi, mais la grâce de Dieu dans ma vie qui a travaillé ainsi. Voilà, il a donné gloire à Dieu parce qu'il savait que ça venait de Dieu. Dieu l'avait déjà rattrapé, lui qui était ennemi de l'Église, le Seigneur l'avait sauvé. Nous n'avons pas besoin que notre apparence nous rattrape. Dieu nous a déjà rattrapés. Jésus, que Jésus soit notre sauveur, c'est le plus beau cadeau de notre vie. C'est ça qui nous élève. Il est écrit aussi que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Voilà. Qui se glorifie d'avoir Jésus comme Seigneur. C'est ça notre gloire. Amen. Je n'ai jamais... On entend des gens se glorifier de Marseille ou de Paris Saint-Germain. Est-ce qu'ils jouent là-bas? Ils ne jouent pas dans Paris Saint-Germain, ils ne jouent pas dans Marseille. Mais ils s'en glorifient. Donc nous, même si nous paraissons les derniers dans la prière, les derniers dans la connaissance de la parole, mais que Jésus soit ton sauveur, tu es dans l'équipe gagnante. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être donc, c'est toi qui veux être le meilleur. dans ce cas, prends la place du Fils de Dieu à la croix. Non, tu ne pourras pas prendre sa place, tu n'as pas cette force-là. Le meilleur d'entre nous, c'est Jésus. Mais l'avantage, c'est quoi? C'est que Jésus nous a pris avec lui et nous sommes meilleurs avec lui. Contentons-nous de cela. Un autre problème, c'est le syndrome du chouchou. Donc, l'enfant gâté. Bien-aimé, il y a des gens, partout où ils sont, ils veulent être le chouchou des responsables. Donc, les chouchous des gens qui sont élevés. On a même fait un livre sur un politicien de la France, le chouchou. Donc, on a remarqué que partout, ce politicien est... il devenait le chouchou du responsable. Et il a fini par devenir le chouchou de Sarkozy à l'époque. Et aujourd'hui, il est prêt à affronter Sarkozy dans les élections présidentielles. C'est pour dire que c'est un syndrome réel. Donc le syndrome de l'enfant gâté. L'enfant gâté, c'est un enfant qui a su rendre ses parents esclaves de lui. Il a mis les parents sous son contrôle. Les parents ne vivent que pour lui. Les parents, voilà, font tout pour lui. Et maintenant, ça peut arriver. Mais, et qu'en grandissant, on s'en départisse. Mais il y en a, en grandissant, qui gardent cette onction-là d'enfant gâté. Et partout où ils vont aller, ils vont vouloir qu'ils soient le chouchou du professeur. Ils vont vouloir qu'ils soient le chouchou du PDG. Ils vont vouloir qu'ils soient le chouchou du pasteur. Ils vont vouloir... Et maintenant, à chaque fois qu'on ne le met pas à la place de chouchou, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de faire des choses pour séduire celui qui a l'autorité pour être le chouchou. Donc, il va faire les choses par la chair pour essayer d'attirer l'attention de son environnement, l'attention des aînés pour être le chouchou. Et de tels gens deviennent très dangereux parce qu'ils peuvent créer des intrigues, créer des problèmes juste pour paraître le meilleur, pour paraître le bon. C'est des gens qui vont souvent accuser les autres auprès des responsables pour dire « mais tous les autres sont mauvais, il n'y a que moi ». Et ce n'est pas bon. Ça devient des destructeurs parce que, vous savez, un chouchou, c'est quelqu'un qui gère ses parents, finalement, et au-dessus de ses parents. Et donc, une telle personne, partout, cherchera à être au-dessus. C'est ce que je viens de vous dire, non? Quand on a sorti le livre sur ce monsieur-là, il était un ministre de Sarkozy. Mais aujourd'hui, à part Fillon, les autres ont accepté que si Sarkozy se présentait, eux, ils se retiraient. Mais lui dit, non, lui, il ne se retire pas. Tous les chouchous finissent toujours par vouloir prendre la place de celui qui voulait attirer, du parent. C'est toujours comme ça. Les enfants gâtés, ils finissent par prendre l'autorité des parents. C'est pourquoi nous devons veiller à la façon dont nous éduquons les enfants. Un enfant, même à 4 ans, peut prendre l'autorité des parents. C'est une possibilité. Donc nous devons laisser l'enfant à sa place d'enfant. Nous ne devons pas traiter les enfants comme si c'était devenu des seigneurs. C'est des enfants. Il est écrit dans Proverbe 22:6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » Mais pas, on n'a pas dit de faire de son enfant son chouchou. Imaginez que Dieu ait fait de Jésus un chouchou à la manière charnelle comme on est en train d'expliquer là. Est-ce qu'il allait accepter qu'il soit crucifié pour nous? Il n'allait pas accepter. À chaque fois qu'un de mes enfants se blesse, je pense toujours à Dieu et Jésus. Je dis, oh, moi j'ai mal comme ça. Mais comment lui il a pu supporter que son enfant soit crucifié pour nous? À chaque fois, je suis terrassé. Quand je pense, quand un de mes enfants est malade ou blessé, cette douleur-là me fait penser toujours au Seigneur. Pour dire, mais comment le Père a pu laisser son fils? Et ça m'amène bien aimé à servir Dieu à 100%. Je suis reconnaissant. je suis reconnaissant. Sa colère s'est répandue sur son fils parce que son fils avait fait le choix de prendre notre parti, de prendre nos péchés sur lui. Et lorsqu'on traite un enfant comme un enfant gâté, on tue cet enfant-là. Partout il va aller, il va vouloir être le chouchou et il va détruire, il va faire des complots et à la fin il va vouloir toujours être à la tête. Il va vouloir contrôler. Parce que quand un enfant gâté, il est gâté, il faut savoir qu'il ne donne pas que des ordres, mais il fait des séductions, il fait des manipulations pour recevoir toujours les oui quand il demande quelque chose. Donc avant, ça va devenir un grand artiste de la manipulation, mais c'est satanique ça. Et donc il sait comment manipuler pour que lorsqu'il va demander quelque chose, on lui dise oui. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu a permis que nous soyons hommes et femmes, parce que nous ne sommes pas pareils. Les femmes ont tendance à rendre les enfants gâtés et l'homme est là pour redresser, pour dire non. Je ne veux pas que mon enfant pourrisse. Voilà. Un jour, il aura 40 ans. Un jour, il aura 30 ans. Il y a aussi des hommes qui se sont fait avoir, mais c'est beaucoup plus difficile. Parce que l'enfant, c'est comme une production de la femme. C'est comme si c'est son corps qui est sorti d'elle-même. Donc, et quand elle voit l'enfant, elle a l'impression que c'est elle-même, c'est sa production. Et l'homme n'a pas toujours cette sensation-là. Et donc, l'homme a plus le côté autorité pour donner la bonne direction, même s'il faut qu'il souffre un peu en voyant l'enfant souffrir. Vaut mieux ça parce qu'il se dit, mon enfant doit être un homme. D'abord, la femme va être la première à dire, bon, on inscrit le garçon dans telle activité. 3 mois après, ah, mais il est fatigué, il peut se reposer. Nous, les hommes, on dit, non, c'est un garçon. Allez, va bosser comme tout le monde. C'est ça. Mais pour inscrire, c'est la femme qui a fait vite. Mais après, ah, mon fils est fatigué. Ah, mais non. Nous, on dit, mon fils va être un responsable plus tard, il doit affronter les difficultés. Allez, tu vas bosser. C'est comme ça. Et c'est très important, bien aimé, maintenant, quand l'homme ne joue pas son rôle, les enfants sont détruits. Et ça devient des enfants gâtés. Et c'est des enfants qui vont être nocifs dans la société. Parce que partout, ils vont chercher à manipuler. Et quand ils vont se marier, ils vont chercher à manipuler le conjoint ou la conjointe. Pour qu'ils soient toujours considérés comme des chouchous à qui on ne dit pas non. Et c'est vraiment satanique. Je crois que Satan est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il n'a pas voulu qu'on lui dise non. Il était glorieux, Dieu l'a créé, glorieux. Mais il est dit que toutes les musiques étaient faites à ton jour. C'est comme si Dieu lui faisait... C'est pourquoi le grand ennemi de Satan, c'est qui? C'est Jésus, c'est la jalousie. Mais tiens, il aime son fils plus que moi, son fils a plus... Ça, Satan n'a pas supporté ça. Il a voulu rivaliser avec le... Vous savez, c'est pourquoi c'est écrit qu'il a donné son fils unique. Voilà, Jésus, c'est le fils unique. Et le serviteur, beaucoup aimé, a voulu prendre la place du fils unique, devenir le chouchou. Dieu a dit, allez, coup de sabot, tu sors du paradis. Nous devons veiller sur nos enfants, qu'ils ne soient pas des enfants gâtés, parce qu'ils vont gâter la société. Partout, ils ne seront pas heureux dans le mariage. Ils vont devenir un fardeau pour leur femme. Ils vont devenir un fardeau pour leur mari. Toujours irresponsables, voulant toujours qu'on s'occupe d'eux. Eux ne faisant rien. Onglerie à gauche, maquillage à droite. Non. Il y a des hommes aussi. Des enfants gâtés, l'enfance n'a pas été achevée. Ils vont vouloir qu'on leur fasse tout. Dès qu'il faut prendre une décision, c'est la femme qui doit prendre la décision. Ils confondent une femme à la maman. Ta femme, c'est ta femme, ce n'est pas ta maman. Tu dois prendre les décisions de l'homme. Et la femme donnera la vie à tes décisions. La femme donne la vie, l'homme donne la direction. Mais il y a des hommes qui vivent encore comme s'ils étaient avec leur maman à la maison. Qui va s'occuper de tout. Ce n'est pas normal. C'est le syndrome d'enfant gâté. Il faut faire attention. Le Seigneur veut qu'on devienne des responsables. Amen. Nous sommes quand même ses fils et ses filles, donc nous sommes des princes, donc nous sommes des responsables. Il y a aussi l'instabilité qui est une maladie aussi spirituelle grave. L'instabilité, l'inconstance, la fuite perpétuelle. La fuite perpétuelle, il y a des gens qui fuient tout le temps. Ils prennent un poste, ils fuient ce poste-là. Ils sont dans une église, ils fuient encore. Ils sont dans un endroit, dans un travail, dans une entreprise. Quelques temps après, ils fuient encore. Au fait, c'est des gens qui ne supportent pas la contrariété, qui ne supportent pas les désagréments, qui veulent que les choses se passent comme ils veulent. Même les petites variations, ils veulent que ça se passe comme ils veulent. Et c'est pourquoi, à un moment donné, ils vont se sentir mal à l'aise parce que les choses ne se passent pas comme ils veulent. Et donc, il y aura une certaine instabilité. On a connu des gens qui ont changé 10 formations. À peu près 10 formations. Et quand vous citez les formations, vous allez voir que ça n'a rien à voir les unes avec les autres. Parce que c'est un enfant qui était gâté. D'ailleurs, le jour où je lui ai dit ça, il a peu de temps après, il a quitté l'église. Moi, je lui ai dit, moi, je ne suis pas un faux pasteur. Je suis un vrai pasteur. Donc, je ne peux pas te mentir. Si j'étais un faux pasteur, je te mentirais. Je suis un vrai. Je te dis que tes parents t'ont gâté, mais moi, je ne te gâterai pas. Voilà. Quelques temps après, c'est la fuite, la poudre d'escampette. Quand ça se passe comme ça, on bénit le Seigneur, on dit « Seigneur, amène-le, stabilise-le. » Que quelqu'un ne peut pas changer de formation 8 fois, 7 fois. Changer d'instrument de musique 5 fois. Mais maintenant, les parents achètent toujours. « Ah, maintenant c'est le guitare. Maintenant c'est le synthé. Maintenant c'est... Oh, » ben. À un moment donné, tu dis à ton enfant, il faut savoir ce que tu veux, hein. Tu nous as fait acheter le synthé, le violon, la trompette, le piano. Mais un jour, tu vas demander un télescope. Non, mais non. Non. Donc, à un moment, on dit stop. Là, qu'est-ce que tu veux? Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui fuient. Et il y en a qui vont être parfois 7 fois fiancés. Parce qu'à chaque fois qu'on lui répond mal, ah, je crois que ce n'est pas la femme pour moi. Il change. Parce qu'il a des problèmes à accepter les contrariétés. Dans la vie, il faut savoir que nous ne sommes pas seuls au monde. Même si vous faites 60 avec quelqu'un, vous êtes 2 personnes différentes. C'est-à-dire que la personne peut être en train de dire, « Ah tiens, j'aimerais bien manger une poire. » Mais comme vous êtes 2 personnes différentes, tu ne peux pas lire ce que lui, il vient de penser. Elle vient de penser. Toi, tu es sur le marché. « Oh tiens, ces pommes sont belles. Je crois que ça va lui plaire. » Mais tu te dis, « Mais je le connais, ça fait 60 ans. » Mais lui, il est en train de penser à des poires. Juste le fait que nous soyons des personnes différentes, hein, ça fait qu'il y aura toujours des contrariétés. Donc, quand toi, tu amènes les poires, tu dis, « Ah, moi, je pensais à des pommes. » Tu te fâches. Non. C'est une personne différente. C'est normal que parfois, il aime quelque chose que toi, auquel tu n'as pas pensé. Même si ça fait 60 ans que vous êtes ensemble. On est des êtres distincts. Juste ça suffit pour comprendre qu'il y aura des contrariétés. Il y aura un moment où moi, tu auras envie de courir. l'autre a envie de regarder la télé. Donc, il y aura des contrariétés. Et dans la vie, il faut savoir se donner des raisons, dire, bon, c'est pas grave. J'avale la pilule pour qu'on construise. Mais quand on veut toujours avoir raison, on veut toujours vivre ce que nous, on veut, on finit par devenir instable. Parce que là où on est, à un moment donné, ça ne va pas faire comme nous, on veut exactement. Mais parfois, il faut accepter. Bon, on avait demandé à un monsieur, mais comment vous avez fait pour faire 50 ans de mariage? Il a dit, bon, tout ce qu'elle prépare, je dis que c'est bon. Voilà. Donc, il a compris la stratégie. Donc, on ne peut pas être identique. Bon, la stratégie, c'est de ne pas discuter. Pour la nourriture, vous savez, la nourriture, c'est quoi? Tu peux sortir, en tant qu'adulte, nous avons tous un certain salaire. On a toujours un peu, même 5 euros dans la poche. Si ça ne te plaît pas, tu peux te sortir même à un moment donné faire un tour, tu manges quelque chose dans le marché, plus tu sors rapidement. Mais, ou bien dans un McDo, tu sors rapidement. Mais pourquoi faut discuter? Mais il manque du sel. Mais la femme va dire, regarde-moi cet enfant-là. Voilà. C'est ça. Tu veux discuter pour tout et pour rien. Fais un tour, tu dis, bon, je vais voir visiter Ézéchiel, tu passes par le quick qui est à côté. C'est tout. Et après, dans la maison, l'atmosphère est bien, il est tranquille. Ah, mais c'est, oui, mais c'était bon. Quelqu'un va dire, ah, mais pas ça, ça c'est le mensonge. Non, mais c'est bon en esprit, c'est tout. Voilà. Parce qu'elle a fait un effort pour préparer, donc c'est bon en esprit. Voilà. Non, il faut éviter les discussions inutiles. On est différent dans la vie. Donc vouloir à ce que tout se passe comme nous, on pense, ce n'est pas possible parce qu'on est différent, on est distinct. L'essentiel, c'est que ça aille dans la même direction. Ça construise. C'est ça l'essentiel. Donc, c'est ça qui va nous stabiliser. Et s'il faut savoir ce qu'on veut, tu te dis, bon, voilà, mon objectif, c'est ça. Et beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est de l'instabilité. C'est lié au fait qu'ils veulent que... C'est comme si ils veulent que ça se passe exactement comme ils veulent, au moment où ils veulent. Vous savez, il y a des gens même qui disent, ah, mais Dieu m'a demandé de faire telle chose. 3 mois après, ça ne va pas. Au lieu de se repentir, de dire, ce n'était pas Dieu qui m'avait demandé, je me suis trompé, ils ne se repentent pas, ils s'engagent encore sur autre chose. Mais non. Normalement, tu devrais te repentir parce que tu avais dit que c'était Dieu. Avant d'aller vers autre chose, il faut dire, mais tiens, je m'étais trompé, ce n'était pas la voix de Dieu. Ou encore dire, c'est Dieu qui change. Mais ils ne disent plus rien, on les retrouve dans autre chose. Mais il avait dit que c'était Dieu. C'est l'instabilité, c'est une maladie spirituelle. Dans Psaume 92, le Seigneur dit qu'il nous plante. Il nous plante quelque part. Le Seigneur, il nous dit dans Ésaïe 61 qu'il a fait de nous un jardin. Il a fait de nous des térébintes. Les térébintes, c'est des gros arbres solides, bien plantés. Donc un chrétien... On le reconnaît aussi par la stabilité dans son fonctionnement. Et c'est cette stabilité qui permet une croissance normale. Vous savez, une plante qu'on déracine, qu'on replante, qu'on déracine, qu'on replante, ne peut pas produire quelque chose de solide, de qui dure des fruits, non. Ça restera une jeune plante un peu déstabilisée. Donc, on reconnaît aussi le vrai chrétien par sa stabilité dans un projet. Il persévère. Dans un projet, il persévère. Parce qu'il a dit Dieu, c'est lui qui m'a placé dans ce projet-là, donc je vais persévérer jusqu'à ce que je vois. Maintenant, 2 ans de persévérance et on le voit et on se dit, ah, mais je change. Mais non, là c'est l'instabilité. Nous devons laisser le Seigneur nous planter et nous guérir. Donc disons au Seigneur, qu'est-ce que tu veux? S'il nous dit, je veux ça, soyons fidèles à ça, jusqu'à ce que lui-même, il nous dise, j'ai changé. Mais il faut que ça soit clair. Vous savez, on a des exemples dans la Bible. Élimélec a fui Bethléem, puisqu'il y avait la famine. Qu'est-ce qui s'est... Vous connaissez la suite, non? En allant dans le pays de Moab, ben, ses 2 fils sont morts, lui-même est mort. Et Naomi, Ruth, sont retournés à Bethléem. Il y a des gens qui n'acceptent pas les déserts. Dès qu'il y a des déserts, des difficultés, des oppositions, on change. Non, il faut accepter les déserts. La grande question à se poser, qu'est-ce que Dieu a voulu pour moi? Mais il faut rester constant. Si Dieu a voulu telle chose, je reste dans la chose. Même s'il y a des déserts, mais c'est la volonté de Dieu qui l'emporte. Un autre problème, bien-aimé, toujours lié à l'orgueil, parce que ce que je viens de dire, c'est toujours lié à l'orgueil parce qu'on veut que les choses se passent pour nous mettre à l'aise. C'est toujours l'orgueil. Il y a l'esprit de contrôle sur soi-même, la retenue. Il y a des gens qui ont une maîtrise de leur vie comme s'ils étaient Dieu pour eux-mêmes. Un esprit de contrôle sur eux-mêmes qui font qu'ils sont mesurés comme les Anglais, millimétrés comme les horloges suisses. Tout est géré par leur volonté propre. Ils ne font que ce qu'eux, ils ont décidé de faire. Bien-aimés, or la vie d'un chrétien, vous savez comment Jésus explique ça dans Jean au chapitre 3? C'est le vent souffle. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Mais on en entend le bruit. Donc quelque part, un chrétien ne peut pas maîtriser sa vie. Eux, ils vont dire, ils vont demander pardon quand ils ont décidé. Même s'ils sentent bien que l'esprit les convainc, il faut tu as la colère. Mais je ne me sens pas encore prêt à demander le pardon. Mais si Jésus revient, ils vont décider de danser quand eux, ils veulent. Même quand l'esprit les pousse à danser, ils sont là bien, comme on dit les Anglais, flegmatiques. Voilà. Avec une tasse de thé à 16 heures. Donc ce n'est pas normal. La vie du chrétien, c'est des fleuves d'eau vive. Les fleuves d'eau vive, est-ce qu'on peut contrôler les fleuves d'eau vive? On ne peut pas les contrôler. Et il y en a qui ont un esprit de maîtrise sur eux-mêmes. Je n'irai pas parce que je n'ai pas suffisamment d'essence. Je n'irai pas à la réunion de prière. Ils décident, ils disent pas, Seigneur, je sais que tu me veux dans la prière, mais là, je n'ai pas d'essence. Non, celui qui décide, je n'irai pas parce que... Contrôle sur soi-même, c'est l'orgueil. Parce que c'est Dieu qui est notre chef. Ce n'est pas nous-mêmes. C'est eux qui décident. Je change d'église. Il n'y a pas Dieu dans l'affaire. C'est le je qui est dans l'affaire. Non. Ce n'est pas normal. C'est au Seigneur de décider pour nous. La retenue est parfois synonyme de l'esprit de contrôle. On se retient. On ne veut pas être exubérant. On ne veut pas être expansif. C'est parfois l'esprit de contrôle. Nous avons un grand exemple dans la Bible, le roi David qui a dansé pour l'Éternel. Et sa femme a dit, mais tu danses comme n'importe qui. Il dit, mais tu ne sais pas qui m'a fait roi. Je danse pour celui qui m'a fait roi. Nous ne sommes pas en train de prêcher la danse, mais ça peut être un élément qui montre que c'est Dieu qui contrôle notre vie. Voilà. Comme David nous l'a montré. Vous savez, si Jésus devait décider lui-même, vous savez, à un moment, il a dit quoi? Seigneur, enlève cette coupe. Hein? Mais après, il a dit non, que ta volonté soit faite. Voilà. Le chrétien doit laisser l'Esprit le conduire. Jean 16, 13. L'Esprit Saint vous conduira dans toute la vérité. La nouvelle naissance, c'est ça. C'est comme le vent. Et parfois, la retenue, le contrôle de soi-même, c'est la démonstration que l'orgueil est en train d'agir et qu'on veut mesurer, calculer tous nos mouvements. Et ça, c'est l'orgueil. C'est Dieu qui doit nous conduire. Et parfois, il nous conduira comme nous, on ne veut pas. Un autre problème, c'est l'accusation perpétuelle de soi-même. Il y a des gens qui ne font que s'accuser d'être sale, d'être mauvais, de n'avoir pas la bonne taille, d'être forte, d'être ceci. Et ils passent leur temps à s'accuser d'être méchant, de ne pas être intelligent. Et on se dit, ah, mais tiens, souvent on a pitié de telle personne. Ah, mais quand ces gens-là viennent chez moi, je dis, c'est l'orgueil. Tu veux tellement briller que comme ça n'est pas le cas, tu t'accuses maintenant, comme pour équilibrer. Donc vous êtes deux en toi. Il y a un qui accuse l'autre de ne pas être parfait. Donc, mais celui qui accuse là, il est comment donc? Il est parfait. Puisqu'il accuse. Parce que si celui qui accusait était bien, il n'accuserait, il n'était pas bien, il n'accuserait pas l'autre d'être imparfait. Donc, les gens qui s'accusent comme ça, ils sont deux. Il y a un qui est parfait, qui accuse l'autre d'être imparfait. Tu me fais honte. C'est comme si... comment dire... je cherche un nom qui n'est pas ici, parce que sinon on va dire... Tichik. C'est comme si Tichik parlait à Tichik. Ah mais Tichik, tu es encore gros, mais tu me fais honte. Tichik, tu n'as pas pu répondre. On a posé une question sur la Bible, tu n'as pas pu répondre. Mais c'est Tichik qui parle à Tichik. Mais tu me fais honte. Donc le Tichik qui parle là, lui il est parfait. Lui il allait répondre. En fait, c'est le Tichik qui parle, c'est le rêve. On aimerait être parfait, le plus beau, le plus intelligent, celui qui connaît toute la Bible, celui qui prie beaucoup. Ah maintenant, ce rêve-là, c'est celui qui commence à parler à l'autre. Mais Tichik, regarde, toutes les femmes arrivent à s'en sortir dans telle chose, mais toi, tu arrives, Tichik. Mais c'est Tichik qui parle à Tichik. Donc le Tichik qui parle là, c'est l'orgueilleux, le parfait, et il critique celui qui ne répond pas à ses rêves. Voilà. C'est l'orgueil. Moi, je n'ai pas pitié. Je te dis clairement, c'est l'orgueil. Arrête avec l'orgueil, parce que l'orgueil est fort. Comment moi, je vais avoir pitié de lui? On a pitié des faibles. Mais ceux qui sont forts, nous leur disons, calmos. Reviens, reprends, comme on dit en français, reprends la raison. J'allais dire autre chose. Reprends la raison. Nous sommes tous imparfaits. Dieu seul est parfait. C'est pourquoi justement nous avons cru en Dieu. Parce que si nous étions parfaits, nous ne croirions pas en Dieu. Il n'y aurait pas besoin de travail sur notre vie. Si nous avons cru en Dieu, parce qu'on s'est senti bas des gens qui avons échoué, c'est pourquoi nous avons cru en Dieu. Vous savez, moi quand j'ai connu Jésus, j'ai dit, mais vraiment c'est ça qu'il me fallait. Parce que je me suis dit, mais lui, il accepte les nuls. Comme j'étais un grand paresseux, je me suis dit, mais voilà le Dieu qu'il me fallait. Parce qu'il accepte même les paresseux. Alors donc, pour moi, acceptons le Dieu qui, lui, ne te juge pas. Il veut au contraire t'élever et te sauver. Acceptons ça. Pourquoi vouloir prouver encore qu'on est fort par nos propres œuvres, par la chair? Et s'accuser, ça donne l'impression qu'on est malheureux. En réalité, c'est l'orgueil. Humilions-nous. Reconnaissons que nul n'est parfait. Dieu seul est parfait. Et allons de gloire en gloire avec lui. Mais le cœur humble. Et finalement, il y a des gens qui aiment contrôler leur environnement. Mais quelqu'un dira, mais où est l'orgueil? Mais c'est l'orgueil parce que Dieu seul contrôle tout. Quand on dort, Dieu seul voit tout. Vous savez, Dieu a dit à un roi, Sanchérib, qui était orgueilleux, qui disait, mais je vais détruire Israël. Dieu a dit, mais Sanchérib, moi je vois quand tu dors. Je vois quand tu sors. Je vois quand tu reviens. Et souvent, les gens ont besoin de savoir tout ce qui se passe autour d'eux pour se sentir protégés. Donc, c'est un esprit de contrôle. C'est un esprit de... Tu veux prendre la place de Dieu. Tu veux tout savoir. Parfois, il va y avoir deux personnes parler là. Ils vont entendre un mot. Oh, est-ce qu'ils m'ont pas... Ils n'ont pas parlé de mon fils? Est-ce qu'ils n'ont pas parlé de moi? Et il va faire parfois un tour un peu... Pour... Ça, c'est vouloir être Dieu. Dans la vie, il faut savoir ne pas tout contrôler. Vous savez, dans des postes comme un poste de pasteur ou bien de directeur d'entreprise, mais si tu veux tout savoir, mais c'est grave, tu vas mettre des caméras, tu vas mettre des espions, mais c'est fini, tu vas devenir comme Satan. Dans la vie, il faut supporter d'ignorer des choses. Moi, j'ai un principe, je ne demande pas. Si quelqu'un veut me donner une information, ça doit venir de lui. Même si je soupçonne, je ne demande pas. J'ai dit, dans le poste dans lequel je suis, si je commence à demander, ça va aller très loin. Ça va aller très loin, c'est très dangereux. Donc, je préfère rester dans l'ignorance, que Dieu seul me dise ce qu'il veut me dire. C'est le principe. Acceptons d'être des humains. Un humain ne peut pas tout savoir. Et souvent, on veut la sécurité de tout savoir dans son environnement. On commence à contrôler les poches des gens. C'est dangereux. Savoir demander toujours aux gens, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Non! Dans la vie, il faut accepter que la sécurité vienne de Dieu. Que nous soyons, nous les chrétiens, nous dépendons de Dieu. Laissons Dieu s'occuper de tout. Ésaïe 35 nous le dit. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ce n'est pas en sachant tout. On a vu les Américains, hein? Ils ont mis des espions partout, des caméras partout, mais ils ont été vendus par leur propre fils, Edward Snowden. Ce n'est pas un Français qui a vendu les Américains. Ce n'est pas un Australien. Leur propre fils les a vendus, sortant tous les secrets. Donc, c'est pour dire qu'on ne peut pas tout maîtriser. Vous avez vu, non, à la dernière intervention, lors de la cérémonie sur Mandela, le monsieur qui traduisait en langage des sourds, c'était un imposteur. Donc il faisait des blagues. Donc mais vous vous imaginez qui était à côté? Obama. Et après on nous dit que le monsieur il est schizophrène. Donc il peut devenir fou d'un coup, t'attraper au cou le temps que les gardes viennent, tu es déjà mort. Parce qu'avec un stylo, on peut tuer quelqu'un. C'est pour dire que l'homme ne peut pas tout maîtriser. Vous vous imaginez, la sécurité américaine n'a pas su qui était cet homme-là. Il est passé à travers les mailles des filles. Vous savez aujourd'hui où il est? Dans un hôpital psychiatrique. Donc il pouvait devenir fou d'un coup et pratiquer les doigts et tuer Obama. On ne peut pas tout contrôler. Dans la vie, il faut accepter qu'il y ait des choses. Le mari finit la conversation. C'était qui là? Oh. Je ne dis pas qu'on ne peut pas demander, mais que ça devienne systématique. Mais c'était qui? Il a dit quoi? Laisse aussi la personne parler d'elle-même. On ne peut pas tout savoir. Parce qu'on peut aussi te mentir, tu vas faire quoi? Il y a des grands menteurs dans ce monde. Contrôler son environnement. Et on va devenir parfois une belle-mère embêtante. On veut contrôler sa fille, contrôler le foyer de sa fille, contrôler le foyer de son garçon, de son fils. On veut tout savoir. Vous avez mangé quoi aujourd'hui? Mais l'homme quittera son père et sa mère. Ils t'ont déjà quitté. Tu veux savoir qu'est-ce qu'ils ont mangé là-bas? C'est l'esprit de contrôle. Ce n'est pas bon. Nous devons accepter qu'il y ait des choses qui nous échappent. Mais ça n'échappe pas à Dieu. Et qui s'occupe de nous, c'est Dieu. Qui nous protège, c'est Dieu. Puisque ça n'échappe pas à notre gardien. J'aime le verset. Le gardien d'Israël, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Ah, c'est beau. Hein? Donc pendant que nous dormons, lui, il est vigilant, éveillé. Il peut même empêcher un moustique de te piquer. Le gardien d'Israël. Ah, du moment que ça n'échappe pas, à un moment, on nous avait volé un ordinateur et certaines choses ici, certains appareils. Et un jour, j'ai dit, mais la personne qui a vu ça a été filmée. Je crois que le vrai voleur avait tremblé s'il était là. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais Dieu l'a filmé, Dieu a vu. Puisque Dieu a vu le voleur, nous on est tranquille. On sait que les choses sont sous contrôle. On n'a pas besoin nous de savoir. Mais le frère ici, il vient d'acheter quelque chose. Mais non, on va commencer à soupçonner. Non, on se dit Dieu a filmé la scène. Tôt ou tard on verra ça, même le dernier jour. On verra ce film-là. De celui qui a volé l'ordinateur. Voilà. Bien-aimé, en conclusion, nous disons ceci. L'enfance est très important parce que beaucoup des tares que nous venons de citer viennent de l'enfance. C'est très important que l'enfance soit équilibrée, l'enfance soit gérée selon la parole de Dieu. C'est très important que Proverbe 22:6 s'accomplisse. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Beaucoup de choses citées, c'est dû à l'enfance, dû au passé des gens, parfois des enfances délaissées. Et j'espère que j'ai le temps. Il y a un monsieur qui faisait des enquêtes sur les cerveaux de tueurs en série. Un jour, sa mère lui a dit, mais tu devrais faire l'enquête sur ton propre cerveau parce que dans la famille de ton père, il y a des gens qui ont le caractère des gens que tu cherches là. Et effectivement, quand il a scanné son cerveau, ça ressemblait au cerveau de tueur en série. Et il s'est dit, mais pourquoi moi je ne suis pas devenu un tueur en série alors? Il a vu qu'il avait quand même, c'est vrai, certaines pulsions de colère, mais ça n'allait pas jusqu'à faire du mal aux gens. Alors il a cherché, il a regardé ses photos d'enfance, il a dit, je comprends pourquoi je ne suis pas devenu tueur en série, j'ai eu une enfance heureuse. Il voyait dans ses photos d'enfance, il était avec ses parents, c'était la joie, c'était voilà, une famille heureuse. Il a eu une enfance heureuse, il n'a pas fini tueur en série. Lisez les histoires de tueurs en série, c'est toujours, ils ont été abusés quand ils étaient petits, ils ont été maltraités, ils ont été délaissés, on leur a fait ceci. L'enfance, c'est quelque chose de très important. Et aujourd'hui, on abandonne les enfants à eux-mêmes comme s'ils étaient des adultes. Ce n'est pas des adultes, ils ont besoin d'encadrement. C'est très important, n'oublions pas cela. Ce n'est pas parce qu'ils ont la même intelligence que nous, qu'ils sont comme nous. L'intelligence, ce n'est pas la responsabilité, c'est deux choses différentes. On peut être intelligent sans être responsable. J'avais un professeur, quand j'étais en CM2, il nous disait, parmi vous, il y a des gens plus intelligents que moi. Voilà ce que nous disait mon maître de l'époque. Il nous a fait grandir avant le temps. Pour nous faire comprendre que l'intelligence, vous l'avez plus, même plus que moi, certains d'entre vous. Mais vous avez besoin de nous pour vous encadrer. C'est très important. Je finis par dire, il faut refuser de s'affirmer par la chair. Même si notre passé a été mauvais, acceptons 2 Corinthiens 3, 17 à 18. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Refusons de nous affirmer par la chair. Laissons Jésus-Christ combattre pour nous. Laissons Jésus nous transformer. Laissons Jésus être notre gloire. Amen. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, Père éternel, nous venons prier pour te demander pardon à cause de toutes ces maladies que nous avons laissées prospérer en nous, travailler en nous, sans nous en rendre compte, Seigneur. Ces maladies qui nous empêchent de progresser dans ton plan, ces maladies qui nous empêchent d'accomplir les projets que tu as formés pour nous. Seigneur, aide-nous à accepter d'être petits, mais d'être grands en esprit en toi, Seigneur. Mais que par nous-mêmes, nous reconnaissions que l'homme est faible, Seigneur, mais c'est toi qui es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, aide-nous, ô Éternel, à accepter, Seigneur, notre place et que toi, tu sois glorifié. Au nom de Jésus, nous venons prier, Père Éternel, que tu nous aides à accepter qu'autrefois on était dans l'erreur et que maintenant nous voulons autre chose, Seigneur. Nous voulons naître de nouveau ou alors vivre la nouvelle naissance. Nous savons que ça finira mal, les maladies spirituelles. Comme les maladies physiques, ça conduit à la mort, les maladies spirituelles aussi conduisent à la mort. Nous refusons cela. Nous avons trop d'exemples de gens qui ont gâché leur vie. Hier, nous avons vu le film de Whitney Houston. On a vu comment sa vie a été gâchée. Parce qu'il y avait des maladies spirituelles qui n'avaient pas été soignées. Seigneur, aide-nous à être humbles pour reconnaître nos torts, reconnaître nos maladies et demander la guérison, Seigneur, au nom de Jésus. C'est toi qui guéris notre âme. C'est toi qui nous sauves. Alléluia. Tu es le Dieu qui m'a créé. Tu es le Dieu qui guérit. Tu dis un mot et guéris ma maladie. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu.
Tu es le Dieu qui m'a créé.
Yeah.
Tu es le Dieu qui guérit.
Tu dis un mot.
Tu dis un mot et guéris ma maladie. Tu es le Dieu qui guérit.
Tu es le Dieu.
Tu es le Dieu.
Tu es le Dieu
qui m'a créé.
Qui m'a créé.
Tu es le Dieu
qui guérit. Tu dis un mot.
Tu dis un mot. Et guéris ma maladie. Tu es le Dieu qui guérit.
Tu es le Dieu.
Tu es le Dieu qui m'a créé.
Et tu es le Dieu qui guérit.
Tu dis un mot
et guéris ma maladie.
Tu es le Dieu qui guérit.
Oui, Seigneur, nous prions que tu nous guérisses, Seigneur. Aie pitié de nous. Je me souviens que le roi David t'a dit dans le psaume 103, où il dit que mon âme bénit le Seigneur parce que c'est lui qui me guérit, qui te guérit de toutes tes maladies. Il dit que tu sais que nous sommes poussière, Seigneur. C'est pourquoi tu peux nous guérir facilement parce que tu sais que nous avons été pourris par le péché d'Adam. Nous sommes poussière. Nous sommes méchants dans notre chair et tu peux nous guérir. Parce que Jésus-Christ a pris nos péchés sur lui. Jésus a eu pitié de nous. C'est pourquoi avec confiance, nous venons te dire, Seigneur, guéris-nous des tares de l'enfance. Guéris-nous des souffrances d'autrefois, des maltraitances d'autrefois. Guéris-nous de cela, Seigneur. Guéris-nous des échecs d'autrefois et aujourd'hui qui poussent beaucoup d'entre nous à vouloir se rattraper en faisant des choses par la chair, en voulant prouver qu'ils peuvent réussir, Seigneur. Nous n'avons pas besoin de tout cela parce que toi, tu as réussi à la croix. Tu as crié, tout est accompli, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur.
Tout est accompli.
Tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia, amen.
Jésus a dit,
tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli, alléluia, amen.
Il a crié,
tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli, alléluia, amen.
Jésus a dit,
tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli, alléluia, amen.
Il a crié,
tout est accompli, tout est accompli,
tout est accompli, alléluia, alléluia, alléluia,
tout est accompli. Tout est accompli,
tout est accompli,
alléluia, amen.
Jésus a dit,
tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Amen.
Il a crié.
Tout est accompli.
Tout est accompli. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Nous n'avons plus honte de nos faiblesses, Seigneur. Nous n'avons plus honte. Parce que nous savons qu'à la croix, tu as tout accompli. C'est pourquoi nous te présentons nos faiblesses clairement, te laissant nous transformer à ton image parfaite. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.